Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio BLV 93.6 et bienvenue dans La Locale. Il est midi 15 et dans cette émission, on va mettre un coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Aujourd'hui, vous êtes donc avec moi, Greg, et avec Camille. Salut Camille.
Salut à tous.
Alors, Camille, quels sont les invités de ce mercredi 31 mai 2023 ?
Alors, d'abord, on aura au téléphone Vincent Lanzade du collectif Sorry Graffiti qui nous parlera du premier festival de graffiti qui aura lieu à Valence en août. Et ensuite, on aura en plateau Patrick Rank et Michel Demange de la Ligue des droits de l'homme à Valence. Donc, ce sera l'occasion de redécouvrir cette association historique et de faire le point suite au mouvement social contre la réforme des retraites. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous Stéphanie Roche, directrice de l'école Danse Avenue à Valence, qui fête ses 10 ans à travers un festival de claquettes. Et comme d'habitude, on aura des infos et des idées de sortie.
Tout à fait.
On démarre avec notre premier invité, Vincent Lanzade, par téléphone. Il est co-créateur et co-président de l'association Wall & Love, qui est issue du collectif Sorry Graffiti. Alors Sorry Graffiti, c'est un collectif qui réunit des artistes du grand sud-est de la France. Et ils ont notamment décoré les murs sous le pont des Launes et celui situé avenue de Romans à Valence. Donc pour que vous puissiez un petit peu situer ce que fait le collectif. Et les artistes reviennent en force au mois d'août pour un festival de street art qui s'appellera Wall & Love. Salut Vincent.
Bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
Ben merci à toi d'être présent sur Radio BLV. Alors en août prochain, durant 15 jours, il y aura la première édition du festival de street art Wall & Love qui aura lieu à Valence. Et il y aura 5 nouvelles fresques murales. Alors j'ai deux questions. Ce sera quand exactement? Et est-ce que tu peux nous dire déjà quels seront les lieux qui feront peau neuve au mois d'août?
Alors, déjà, la première information, c'est qu'on est parti plutôt sur un mois. Au départ, on était
D'accord.
sur 15 jours, mais on va étaler ça sur un mois. On va profiter de tout le mois d'août pour animer un petit peu la ville de Valence, en tout cas mettre des couleurs dans la rue, puisque l'objectif, effectivement, c'était, de, comme tu l'as très bien dit, de rajouter 5 fresques pérennes sur la ville de Valence, sachant que le projet Wall & Love, que vous connaissez et dont tu as parlé tout à l'heure, qui se situe avenue de Romans, fera partie aussi de la programmation. Donc en totalité, il y aura 6 murs qui seront peints. Le projet Wall & Love, avenue de Romans, avec le travail autour des questions qui sont posées, une fresque plutôt participative où on sollicite le public qui répond à des questions que l'on pose sur le mur et ensuite la rencontre se fait avec un des auteurs des réponses et l'artiste qui réalise la fresque. Ça sera l'entrée, enfin en tout cas l'introduction du festival. Donc ça sera vraiment tout début août. Les bulles avec les questions vont apparaître ce week-end. C'est le programme de ce week-end pour les activités du collectif Sorry Graffiti, en tout cas une partie du collectif. Et ensuite, 5 autres œuvres vont se faire tout le mois d'août avec des artistes internationaux qui viennent réaliser des fresques dans la ville. Alors pour être plus précis, pour dévoiler en primeur, puisque vous êtes les premiers à entendre les lieux, donc tant mieux, vous avez bien joué la carte de me solliciter aujourd'hui, il y aura des fresques qui seront faites vraiment en centre-ville. Une derrière la mairie, voilà, en plein cœur de ville. Une sur la MJC Château Vert. Une autre fresque va être faite sur l'école qui se trouve pas loin de une école primaire, qui se trouve pas loin de l'avenue Rothschild, là. Pas Rothschild, je dis des bêtises. Comment s'appelle le grand périph' qui tourne autour de Valence, hein, le périph' interne? Churchill.
Oui, voilà, c'est ça, le boulevard.
Pas la même chose, hein. Voilà, il y a ensuite, j'en suis à combien, 3 ou 4, je ne sais plus.
1, 2, 3, 4, et il en manque une cinquième.
D'accord, ben je dois l'oublier, elle va me revenir.
Bon, en gros, il y aura
c'est
des...
vraiment centré plein cœur de ville. Ah oui, voilà, ça y est, sur la résidence qui s'appelle, la résidence qui appartient à VRH, Valence Romans Habitat, qui se situe vraiment à proximité de la préfecture.
Donc, d'accord.
Vous voyez, on est vraiment, on a souhaité... cette première année, marquer le territoire en essayant de regrouper les fresques en centre-ville, parce que l'objectif, c'est de vraiment faire un parcours. C'est-à-dire que les années, en espérant que l'année prochaine on puisse remettre ça, l'objectif c'est qu'on ait un patrimoine artistique intéressant, divers et varié, et que le public curieux puisse bénéficier d'un parcours. On va travailler avec l'Office du tourisme pour ça, une fois que les premières fresques seront réalisées, que celui qui passe à Valence au mois d'août et qui est pris dans les bouchons de la Sète, que vous connaissez tous, s'arrête, vienne découvrir les fresques, vienne découvrir la ville, viennent profiter de la gastronomie et de tout ce qu'on peut trouver à Valence qui peut être attirant et sympathique. Voilà l'idée.
Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y aurait des artistes internationaux. Oui. Et est-ce qu'ils ont des thèmes à respecter justement pour ces fresques ou justement c'est vraiment c'est une invitation à faire, à mettre leurs pattes, voilà, c'est ça, voilà, sur les murs de Valence.
C'est tout à fait l'idée parce qu'en fait, l'objectif, c'est que on s'est gardé la programmation artistique, c'est-à-dire la direction artistique du projet, c'est nous. C'est-à-dire qu'on estime avoir le regard suffisamment aiguisé et connaître suffisamment notre ville pour pouvoir imaginer quel artiste pourrait s'exprimer où et avec son univers, comment ça peut fonctionner. En tout cas, créer un langage entre l'espace qu'on en a choisi et l'univers de l'artiste. Donc si vous voulez, les artistes, ils viennent, ils sont totalement libres dans leur expression. Sauf qu'on a vu avec les propriétaires des murs, on a présenté le travail de l'artiste, on leur a dit voilà, ça c'est l'univers de cet artiste, voilà pourquoi on l'a choisi, et souvent ça coule de source, quoi, c'est-à-dire que ça fonctionne. Voilà. Donc l'idée c'était effectivement de dire aux artistes, vous venez et vous vous exprimez librement, faites surtout ce que vous avez l'habitude de faire, parce que regardez le lieu qu'on vous propose, il y a ceci autour, il y a cela qui s'y passe à l'intérieur, et j'ai oublié de citer tout à l'heure dans la sélection des murs, il y a aussi le diaconat protestant de Valence, avec la résidence Roche-Colombe notamment, qui accueille des jeunes travailleurs. Voilà, ça c'est un exemple parfait, l'artiste qu'on a choisi pour venir s'exprimer sur ce lieu a un travail autour de la mixité, un travail autour de la rencontre, voilà. Donc tous ces éléments font que l'univers artistique choisi correspond vraiment, c'est du in situ si vous préférez. Voilà. Si on ajoute à ça, la faible rémunération qu'on propose aux artistes, on ne peut pas leur imposer, c'est pas une commande, voilà. C'est vraiment un mur qu'on donne. Les artistes sont payés, mais bien moins que ce qui serait payé si c'était dans le cadre d'une commande où on leur demande d'utiliser telle couleur, de représenter telle chose. Voilà.
Et est-ce qu'il y aura des artistes locaux justement qui pourraient aussi interpréter leur ville ?
Oui, on a un artiste local. Donc dans la programmation, on a choisi des artistes du collectif qui sont des Lyonnais. Voilà. Sur le projet Wall and Love, la fresque qui se renouvelle, parce que là, on a choisi de faire venir des artistes de notre collectif. Après, on a un autre artiste qui est de Valence, puisqu'il a fait l'école des Beaux-Arts à Valence, qui va travailler sur un des murs. Et après, on a un artiste qui vient de Marseille, un autre artiste qui vient de Bordeaux, et ensuite, on a des artistes argentins et une artiste canadienne. Voilà, donc on a tapé un petit peu dans... On a agrandi la carte du territoire, puisqu'on aura des artistes aussi internationaux, c'était notre volonté, quoi. Pas de garder uniquement les artistes locaux, l'idée, c'est aussi qu'il y en ait, mais qu'il y ait aussi des artistes qui viennent de plus loin. Donc évidemment, la sélection, elle n'est jamais facile, parce qu'on n'avait pas 25 murs. Et donc il faut sélectionner, mais on a reçu des candidatures très intéressantes, très alléchantes, mais voilà, on n'avait pas assez de murs et correspondait peut-être pas assez bien au travail de ces artistes-là pour pouvoir les placer, mais ça aurait été avec évidemment avec joie et bonheur qu'on aurait accueilli plus d'artistes cette année. Maintenant, l'objectif c'est de renouveler l'expérience l'année prochaine et d'agrandir de cette manière-là le nombre de fresques et de donner la libre expression à plus d'artistes et évidemment des artistes locaux.
Alors les artistes, souvent on a du mal un petit peu à les connaître parce qu'ils sont cachés derrière des surnoms et le milieu du graffiti, c'est au final un milieu qui est assez méconnu, enfin en tout cas qui est peut-être un peu discret. Et justement, avec le collectif, vous cherchez vraiment à créer du lien, j'ai l'impression, entre l'univers du graffiti et le public. Et je crois qu'il y aura la présence peut-être d'un médiateur sur place pendant le festival.
Voilà, l'objectif, c'est encore une fois, comme ce qu'on fait depuis le début avec le collectif Souris Graffiti, c'est d'ouvrir les portes, quoi. C'est-à-dire qu'on... Nous, ce qui nous plaît, c'est de peindre dans l'espace public. Donc à partir du moment, puisqu'on fait du graffiti, c'est pour ça qu'on s'appelle Souris Graffiti, c'est qu'à un moment donné, on est désolé, mais on est là, on s'impose un petit peu puisqu'on est dans l'espace public. Et du coup, on aime bien rencontrer le public et échanger avec le public parce que notre pratique, et on en joue aussi, hein, évidemment, hein, parce que cacher là-dessus, sur le fait que c'est des fois provocateur, des fois on n'est pas invité à venir peindre au mur, on le peint quand même. Bon, nous, on n'est plus dans cette démarche-là avec le collectif, puisqu'on a des lieux qui ont été effectivement, à notre demande, rendus accessibles à la libre expression. Mais l'idée, c'est encore une fois de rencontrer, d'expliquer, de provoquer le débat. On aime bien aussi tomber sur des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec nous sur ce qui est notre pratique. Comme ça, on peut expliquer, et voilà, on n'est pas obligé d'être là pour convaincre, mais au moins, l'échange se fait, c'est ce qui nous intéresse. Et l'ouvrir aussi à d'autres pratiques artistiques, comme on a pu le faire maintes fois sous le pont des Lones avec des interventions théâtrales qui accompagnaient la réalisation des fresques. Voilà, donc c'est la volonté, effectivement, d'avoir quelqu'un au pied des murs, et il y aura à chaque fois quelqu'un, un médiateur, qui sera là pour expliquer, on peut appeler ça un médiateur ou on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, ce seront certainement des bénévoles et des gens du collectif qui seront là pour expliquer, entamer les débats. Au-delà de la peinture qui se fait, ce qui est intéressant, c'est on est dans l'espace public, donc on est là pour échanger, quoi. Donc c'est l'idée principale de ce festival. Et c'est vrai que du coup, vous verrez, c'est assez surprenant, il y a de moins en moins d'artistes qui travaillent à la bombe de peinture, de plus en plus travaillent à l'acrylique et au pinceau. Donc on va parler plutôt de muralisme, puisque le festival s'appelle comme ça. On a appelé ça, on a utilisé des termes anglais, hein. Désolé pour les puristes de la langue française, mais notre pratique artistique, elle vient du graffiti qui est new-yorkais au départ. Donc on a appelé ça mural meeting. Donc c'est une rencontre autour du mur et des muralistes.
Et il y aura aussi, je crois, un tiers-lieu du festival dans la salle d'éclair qui permettra
Exactement.
Aussi de poursuivre cet échange.
Tout à fait. On a un lieu qui sera mis à disposition par la mairie, qui nous aide et qui nous soutient sur ce projet. Cette salle d'éclair que vous connaissez, hein, donc Place d'éclair, qui sera un tiers-lieu, entre guillemets, puisqu'il y aura une exposition. C'est là aussi où on pourra enseigner les gens, leur indiquer où se trouvent les fresques. On aura des flyers, des petits guides, etc., qui seront mis à disposition. Et puis, il y aura une exposition aussi qui sera visible avec un des artistes du collectif qui va exposer pendant la période du mois d'août. Et d'autres éléments qui seront mis à la vente, des éléments qu'on a pu, enfin, en tout cas, des objets, des créations que vous avez pu découvrir, ceux qui ont suivi sur l'appel à la participation qu'on avait pu faire dans la campagne de financement participatif. Voilà, donc on va retrouver des choses de l'ordre de la création artistique réalisée par les artistes du collectif et nos amis qui ont bien voulu nous offrir des visuels pour pouvoir, on va dire, gonfler la cagnotte qui nous permet aujourd'hui de réaliser six fresques au total.
Et toi, Vincent, du coup, tu as l'air hyper actif justement pour rendre visible un petit peu le milieu du graffiti. Mais on te connaît aussi sous le nom de Sowan. J'espère que je le prononce bien.
Très bien, parfait.
Donc, parce que toi, tu es aussi artiste. Et comment toi, tu décrirais ton univers artistique et où est-ce qu'on peut voir tes productions dans la région?
Ben là, pour le coup, on va parler de mon univers artistique, c'est gentil comme tout. Mais là, l'idée, c'était que on se mettait à la baguette avec mon collègue Benoît, qui est connu aussi sous le nom artistique de Groek. Nous, tous les deux, on s'est mis à la baguette. L'idée, c'était effectivement qu'on donnait la... On n'est pas là pour faire nos fresques à nous, hein, mais sur ce festival, c'est vraiment... L'objectif, c'était de rendre à la ville, moi, qui est ma ville d'adoption, puisque ça fait maintenant... une dizaine d'années que j'habite par là, et pour Benoît qui est né, voilà, donc ça c'était le premier objectif. Et moi, mon univers artistique, c'est un lien que je fais entre les images numériques que je récupère sur Internet et que je travaille numériquement avec mon ordinateur. Je ne dessine pas du tout, en fait, je ne suis pas du tout dans le dessin, et que derrière, je viens réaliser, pour le coup, en grande dimension sur les murs. Donc en fait, je passe de l'image numérique immatérielle à quelque chose de très matériel, puisque c'est rendu sur l'espace public et physiquement palpable, puisque c'est sur un mur en grande dimension. Donc voilà, c'est ce transfert qui m'intéresse. Et dans mes sujets de prédilection, de représentation, j'aime bien les animaux, notamment les animaux un petit peu menacés, ou qui sont discrets et que l'on ne voit pas et qui sont très colorés, notamment des guépiers, ou alors des figures humaines qui ont pour moi de l'importance et qui ont marqué l'histoire par leur combat pour des droits divers et variés, notamment des figures féminines comme peut être Nina Simone ou Joséphine Baker, par exemple.
Merci Vincent de nous avoir accordé de ton temps pour nous parler donc du premier festival de graffiti qui aura lieu au mois d'août. Pour avoir toutes les infos générales, j'ai le site sorrygraffiti.com.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres infos que tu voudrais faire passer?
Bah, peut-être suivre sur les réseaux, parce que sur le site internet, on montre surtout le travail du collectif. Là, on est vraiment sur une action qui est celle de notre association qu'on a montée, donc c'est vraiment en parallèle du collectif. Donc les réseaux sociaux, bah, Wall and Love sur Instagram ou sur Facebook, comme ça vous avez toutes les infos. Et bah, sous peu, là, on va forcément dévoiler le lieu précis des murs où seront réalisées les fresques, pardon, la programmation, le nom des artistes, etc. Voilà. Donc merci beaucoup hein, pour tout ça, pour votre mise en lumière de notre festival.
Merci beaucoup Vincent et à bientôt, peut-être au mois d'août.
Merci, au plaisir, au revoir.
Au revoir.
Et c'est l'heure des infos.
Alors, ce samedi de 9h à 18h, dans le cadre de la manifestation Aujourd'hui pour Demain, de nombreuses animations seront proposées de 9h à 18h sur la place La Tour Maubourg. Donc, la médiathèque accueille durant cette journée un spectacle, des tables rondes, une conférence et une fresque climat. Donc, pour en savoir plus, téléchargez le programme complet sur le site de la médiathèque.
Vendredi 2 juin, la médiathèque de Beaumont rencontre projection avec Lucie Carrasco. Alors, Lucie Carrasco, on en a déjà parlé dans cette émission. C'est une valentinoise, styliste et voyageuse. Voyageuse mais en fauteuil roulant à cause d'une maladie génétique, l'amyotrophie spinale. Elle vient de publier une BD qui relate avec humour ses voyages à travers le monde, notamment ce fait avec Jérémy Michalak, le célèbre animateur télé. Elle est célèbre aussi du fait qu'il y a un an, elle a rencontré Emmanuel Macron à propos de l'allocation adulte handicapé. On s'en souvient, ce combat pour la rendre individuelle. Elle a du caractère, du verbe haut et surtout beaucoup d'humour. Venez rencontrer Lucie Carrasco à la médiathèque de Beaumont le vendredi 2 juin.
Et les rencontres Singa Blabla reprennent au Parc Jouvet à Valence à partir de ce samedi, sauf mauvais temps. Rendez-vous ce samedi 3 juin à 15h au kiosque. Et si vous arrivez plus tard, rendez-vous dans le parc directement.
La MJC de Châteauvert, hein, qu'on connaît tous et toutes, organise à partir de demain 9h jusqu'à dimanche la présentation des productions de la MJC. Donc c'est du jeudi 1er au samedi 3 juin, de 9h à 18h. C'est ouvert à toutes et tous, en accès libre, gratuitement. Et on va passer à nos deuxièmes invités. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Patrick Rank et Michel Demanger, c'est bien ça, qui sont tous les deux adhérents de la Ligue des droits de l'homme Valence, association historique de défense des droits de l'homme, qui a toujours été présente hein, depuis longtemps sur notre territoire. Vous allez nous en parler, qui a fait un peu l'actualité suite aux manifestations contre la réforme des retraites et notamment avec la sortie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui remettait en cause, en tout cas qui interrogeait les subventions publiques à l'association. Avant toute chose, bonjour Patrick, bonjour Michel, comment vous allez ?
Bonjour à tous, nous allons bien. Moi aussi, il n'y a pas de problème.
Bon, bah, c'est parfait. Avant toute chose, vous êtes tous les deux adhérents de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez, toi, il me semble que Michel, tu es trésorier.
C'est exact, je suis trésorier.
Et Patrick, tu es adhérent parmi les adhérents.
Oui, même président.
Même président. Et ben voilà, détail. Une info que j'avais pas. Et ben on a la chance de recevoir le président et le trésorier. En quelques mots, est-ce que vous pouvez me présenter un peu la Ligue des droits de l'homme dans l'histoire française et puis peut-être dans l'histoire valentinoise ?
Bon, disons que la Ligue des droits de l'homme a été fondée en 1898 pour refuser l'iniquité du procès Dreyfus. Elle a mené un combat pour la justice et contre l'antisémitisme, qui reste symbolique de la force du droit contre la raison d'État. Après sa création, elle étend son combat en faveur de la justice sociale, de la laïcité et la paix entre les peuples. Son troisième président, Ferdinand Buisson, recevra le prix Nobel de la paix. Durant la guerre 14-18, elle s'engage en faveur des blessés, des veuves et des orphelins. Elle prend la tête d'une campagne en faveur des civils et soldats condamnés et fusillés arbitrairement. Pendant l'occupation, elle paye un lourd tribut. Son président et son épouse sont assassinés par la milice. En 1940, et sans compter que le tiers de ses membres actifs ont été portés disparus à la libération. Pendant l'occupation, elle paye un... excusez-moi. En 1948, René Cassin, l'un de ses membres, prend une part active à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une organisation qui affirme sans cesse l'indivisibilité, l'universalité et l'effectivité des droits humains.
Et à Valence en particulier, ça a été créé quand, la section de Valence, et dans quel contexte ?
Oh, ça remonte à très vieux, puisqu'on a parmi nous une des anciennes militantes qui a plus de 80 ans et qui milite à la section de Valence depuis ses 18 ans. Donc ça remonte à quand même pas mal, à la Libération pratiquement.
Alors la Ligue des droits de l'homme, hein, donc défense des droits de l'homme, tout est dans le titre, a été, du coup on l'a compris, fondée dans un contexte particulier. C'est quoi sa raison d'être aujourd'hui en 2023, la Ligue des droits de l'homme ?
Ben, sa raison d'être, c'est de défendre les droits de tous, partout, et tous les droits. Alors, on est passé de la défense des droits civils et politiques au 19e siècle, fin 19e, début 20e, à la défense des droits économiques et sociaux, et maintenant, on est aussi sur la défense des droits environnementaux.
D'accord. Et à Valence, ça représente quoi votre activité ? Comment cette association nationale se décline sur le territoire ? Comment la Ligue des droits de l'homme à Valence agit ou réagit ou,
Alors, la Ligue des droits de l'homme, déjà, elle réagit aux interpellations de certains citoyens qui estiment que leurs droits sont bafoués ou niés. Elle participe aussi à des actions nationales. On a, par exemple, le 20 juin, avec d'autres associations valentinoises, on participe à la marche des migrants. C'est une marche annuelle qui a lieu tous les 20 juin. Donc, rendez-vous à 17h, place des Clercs, le 20 juin. C'est un mardi. Et aussi, nous participons à d'autres actions, en particulier en direction des scolaires. Parce qu'on estime que sensibiliser les jeunes à la défense des droits et de tous les droits est un aspect important de notre politique. Nous participons à un concours qui s'appelle Les Écrits pour la Fraternité, qui fait participer des élèves du CP jusqu'à l'université. Et nous avons, ces dernières années, plusieurs classes de lycées professionnels qui participent. Et d'ailleurs, cette année, deux classes vont être primées, puisque le concours s'est terminé hier et qu'on a eu les résultats. La Ligue nationale a choisi de primer deux classes, une classe de CAP de métallerie, une classe de seconde de menuiserie, donc des lycées Montesquieu et Amblard à Valence.
Donc une bonne nouvelle pour Valence.
Bah oui, je trouve que c'est une bonne nouvelle et nous allons intensifier nos actions auprès des jeunes en intervenant dans les lycées à la demande de certains professeurs qui veulent que nous présentions la LDH et ses buts et ses actions.
Dans le débat public, les droits de l'homme n'apparaissent pas toujours beaucoup en avant. C'est le rôle de la Ligue, j'imagine, de pousser ces thématiques qu'on a peut-être tendance des fois à me reléguer un peu en arrière-plan. Dans le débat public, j'entends. Hein.
Oui, parce qu'on a l'impression que l'économie, la politique prennent toute la place. Et si ça se fait aux dépens des droits humains, on ne peut pas être d'accord avec ça.
Pour les auditeurs et les auditrices qui ont pu participer aux manifestations contre la réforme des retraites, ont pu remarquer que différentes personnes de la Ligue des droits de l'homme étaient présentes en observateurs, en observatrices. Est-ce que vous tirez un bilan de ces observations après plusieurs mois de mouvement social ? Et quel bilan si vous en tirez un ?
Alors, on sait qu'on a eu dans certaines grandes villes des affrontements violents. Donc les observateurs de la LDH ont fait remonter des affrontements violents parce qu'il y a des manifestants violents et des policiers violents aussi. Et à Valence, on était jusqu'à présent exempt de ce genre de violence. Et il s'est trouvé qu'au cours d'une des dernières manifestations, effectivement, on a eu un enfant qui a été blessé par un tir policier. Et donc nous avons fait remonter tout ça. C'est ce qui a beaucoup énervé le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et Mme Borne, qui ont eu des interventions pour remettre en cause les subventions qui pourraient être attribuées et qui sont attribuées à la Ligue des droits de l'homme. Donc on voulait quand même les remercier un peu ironiquement, parce que ça fait multiplier par 3 le nombre d'adhérents quand même de la Ligue des droits de l'homme à Valence. Donc mais c'est un peu ironique parce qu'on a l'impression que se déroule maintenant, pour bénéficier d'une subvention, il faudrait faire allégeance au pouvoir. Mais non, c'est pas le ministre qui distribue les subventions. C'est la collectivité nationale ou la collectivité locale en ce qui nous concerne pour notre section de Grand Valence, à savoir la ville de Valence et le département. Les associations restent, les politiques qui sont au pouvoir passent. Donc ce n'est pas eux qui distribuent les subventions et nous ne ferons pas allégeance à quelque pouvoir que ce soit. Hein. Et sur un plan plus général, on a... La démocratie, elle fonctionne avec des pouvoirs qui sont organisés, prévus, etc., mais fonctionne aussi avec des contre-pouvoirs. Et s'il n'y a plus de contre-pouvoirs, il n'y aura plus de démocratie. Et c'est ce qu'on voit apparaître dans certains pays. Et on ne voudrait pas que la France prenne le même chemin.
Et pour les personnes qui nous écoutent, qui ont pu réagir hein, suite aux déclarations de M. Darmanin et qui voudraient rejoindre notamment la section Grand Valence de la Ligue des droits de l'homme, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait en tant que bénévole ? Alors, tu as décrit les actions, mais Moi, je suis un nouveau bénévole, je viens à la Ligue des droits de l'homme. Comment ça se passe?
Alors, déjà, il y a deux façons d'adhérer. Soit sur le site national, LDH, soit par mail à la section de Valence. Alors, je vais donner le mail, je vais me permettre.
Oui, vas-y.
Donc, le mail, c'est Grand Valence, GRANDVALENCE, parce qu'on fédère des adhérents de Valence, mais aussi de Bourg-les-Valence et puis des communes alentours. Donc, grandvalence@ldh-france.org. grandvalence@ldh-france.org.
On mettra le lien, hein, quand on mettra l'émission sur le site internet, on mettra évidemment l'adresse mail.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, chacun milite à la mesure de ses moyens. C'est-à-dire celui qui veut s'investir beaucoup, s'investit beaucoup. Celui qui veut s'investir plus légèrement, s'investit légèrement. On est là pour quoi ? On échange sur l'actualité sociale, l'actualité politique. On agit aussi, alors, soit sur des actes individuels, soit sur des actions collectives. Et on essaie de faire circuler l'information entre sections LDH, au niveau régional ou national.
Une dernière question, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, mais une question un peu plus personnelle pour Michel et pour Patrick. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans ce combat-là, dans cet investissement, dans cet engagement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes non seulement à la radio aujourd'hui, hein, pour présenter, mais globalement investi dans la LDH?
Bon, d'abord, je vais apporter une petite précision. En tant que trésorier, César Manin a été bien, bien blousé, puisque nous avions touché les subventions avant qu'il n'intervienne.
Bonne nouvelle.
J'ai toujours été militant, aussi bien syndical que mutualiste. À la retraite, c'est difficile de pouvoir continuer le combat syndical dans la mesure où on n'est plus vraiment dans le coup par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Donc, j'avais un besoin formel de militer et j'ai toujours eu cette impression que les droits de l'homme étaient largement bafoués. C'est comme ça que j'ai rejoint la Ligue et que je continue à militer.
Et toi, Patrick, même question?
Oui, et réponse similaire. J'ai envie de dire que la défense des droits passe toujours après le reste. Or, c'est une des bases de notre démocratie et de notre République. Et c'est dans cet esprit-là, à la limite, une défense quasiment républicaine des valeurs de la République, que ce soit l'égalité, la fraternité, la liberté et la laïcité, qui m'ont fait m'engager à la Ligue des droits de l'homme. Je pense que tout seul, on peut faire plein de choses, mais nombreux, on en fait beaucoup plus.
C'était donc Patrick Rank et Michel Demanger. Patrick Rank, président de la LDH, et Michel Demanger, trésorier, qui étaient nos invités aujourd'hui à La Locale. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, vous pourrez trouver toutes les informations, j'imagine, sur le site de la LDH. On mettra le mail avec le lien de cette émission. Puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.
Merci pour votre accueil.
Merci à vous.
Et c'est l'heure des infos.
Alors, demain soir, jeudi 1er juin, et comme chaque premier jeudi du mois, c'est jam session avec professeur Zitouni chez les Zitonautes à Valence. Donc c'est entrée à prix libre et conscient à partir de 19h30.
Demain, jeudi 1er juin, entre midi et 2, à midi exactement, a lieu à la Maison de la Solidarité Mandela, la MPT de la Font Barlette, la première cantine solidaire, 12€ pour un délicieux couscous, un thé à la menthe, un gâteau. Alors les inscriptions, c'était jusqu'à hier, mais peut-être que vous pourrez les contacter s'il reste des places. À accueil@mds-mandela.org, accueil@mds-mandela.org, au 04 75 55 37 96.
Et moi, je prends la direction de Romans pour Climax, l'exposition de photos de Jean-Baptiste Lyotard du 1er juin au 30 juin à la médiathèque Simone de Beauvoir, rue Sabaton. Alors, Climax, c'est la première exposition des œuvres de ce photographe sportif singulier. Ses photos prises aux quatre coins du monde, traduisent son amour du VTT, qu'il ne voit pas seulement comme un sport, mais aussi comme une culture. Alors, c'est entrée libre et le vernissage rencontre avec le photographe aura lieu le 6 juin à 18h30. Attention, c'est sur réservation.
Du 1er au 3 juin, Valence va vibrer, effectivement, car c'est l'heure du Bomb Your Brain Festival, édition 2, organisé par Pygmy Records, Fuzz, La Baraque et le Mistral Palace, qui sont fiers de nous annoncer une programmation assez éclectique pour le festival qu'ils annoncent, attention, le plus wide de tout le quart sud-est de la France. Voilà, ça promet. Ça se passera essentiellement au Mistral Palace vendredi, puis ça bougera à La Baraque samedi de 20h à 4h du matin, et dimanche, ça sera un peu plus tranquille, ça sera jusqu'à 19h. Je ne vais pas vous dire la programmation, je vous propose de la retrouver sur l'ensemble des réseaux, sur le site internet du festival ou sur les pages de la baraque et du Mistral Palace. Vous êtes toujours sur Radio BLV 93.6 dans l'émission La Locale. On a le plaisir pour cette dernière invitée de recevoir Stéphanie Roche. Alors certains ont pu l'entendre sur les ondes de Radio BLV peut-être, mais en tout cas c'est pas pour ça qu'elle vient aujourd'hui. Elle vient parce qu'elle est directrice de l'école Danse Avenue à Valence et qui fête, et c'est notable, ses 10 ans. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ?
Bonjour, je vais très très bien.
Eh ben, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Première question, en fait on parle de Danse Avenue, une école de danse, mais est-ce que tu peux m'en dire plus, c'est quoi Danse Avenue ?
Alors Danse Avenue, c'est une association qui s'appelle Danse Avenue, qui est sur le territoire depuis 2008. Je suis arrivée en 2008 de la région parisienne, j'ai créé cette association. Et il y a 10 ans, nous avons trouvé un local et nous nous sommes installés au Grand Charan à Valence.
Alors, donc une association avec un local de danse, mais la danse c'est large. Quel type de danse
vous... Et surtout, on ne fait pas que de la danse.
En plus, bah dis-moi en plus.
Donc il y a vraiment plein d'activités. Moi je veux que ce soit un centre d'art vivant. Donc vraiment, on a du chant, on a du théâtre, on a du pilates, du yoga, du street jazz... des claquettes, bien sûr. C'est un peu ma spécialité. Et on ouvre ça à plein d'activités. Il y a du flamenco, il y a de la danse en couple, de la salsa, bachata, kizumba. Et l'objectif pour moi, c'est de faire connaître un maximum de gens qu'est-ce que l'art, et de leur faire goûter plutôt la danse, mais c'est vrai qu'après, on peut s'ouvrir à d'autres activités et la rendre accessible à un maximum de personnes.
Il y a 10 ans, tu te lançais dans ce défi qui peut paraître un peu fou, hein, j'imagine, de créer une association. Alors, j'imagine d'ailleurs que tu n'es pas toute seule dans l'association, sinon ce ne serait pas une association.
Exactement.
De créer ce qui peut s'apparenter quand même à une école de danse, même si c'est associatif. Ce n'est pas toujours facile de survivre 10 ans, d'arriver jusque-là. Quel défi tu as dû relever toi individuellement, mais aussi collectivement, pour aujourd'hui fêter ce bel anniversaire?
Bah déjà, garder nos bénévoles, parce que sans ces gens-là, on n'existe pas. Alors moi, je donne les idées, je donne l'impulsion, mais après, derrière, si j'ai personne qui me suit toute seule avec mes deux jambes et mes deux bras, je ne vais pas très loin. Donc c'est vrai que c'est aussi garder une équipe dynamique. Après le Covid ou pendant le Covid, ça a été compliqué comme tout le monde. Et c'est vrai que là, on commence à retrouver un petit peu une énergie collective qui quand même... peu difficile à avoir, mais voilà, les 10 ans, c'est un bel anniversaire parce que je travaillais avant dans des MJC, tout ça, et suite à un beau succès, les gens me disaient, il faut que tu montes ton école, il faut que tu aies plus de plages horaires, etc., etc. Et au bout de 2 ans, j'ai trouvé un local à Valence.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Et alors, ça se passe comment? C'est-à-dire, on vient prendre des cours, on paye au cours, il y a des interventions peut-être extérieures. Comment fonctionne, en fait, dans sa venue?
Alors, on est 6 professeurs. Donc, tous les premiers cours sont des cours d'essai gratuits tout au long de l'année. On peut arriver, essayer un cours. Alors là, il ne faut pas venir en fin d'année, on est en plein spectacle, donc c'est vrai que ça va être impressionnant. Donc, tout premier cours est un cours d'essai gratuit. Voilà. Alors après, on a un planning de lundi à vendredi, surtout en fin de journée. Et les week-ends, nous proposons des stages.
D'accord. Donc 10 ans, mais alors c'est bien de l'annoncer. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu
et
pour
oui,
ces 10 ans?
On a déjà commencé. On a déjà commencé à fêter. Tout au long de l'année, on a proposé des soirées gratuites aux adhérents, des soirées hypnose, des soirées karaoké pour les chanteurs, etc., etc. Là, on va faire les spectacles de fin d'année des élèves avec une petite surprise le samedi soir. Donc moi, j'ai eu un élève qui a attaqué à 8 ans les claquettes il y a un petit moment maintenant et qui est devenu professionnel, qui habite à Barcelone et qui a monté son premier spectacle. Et nous le produisons en deuxième partie de notre spectacle d'élèves. Donc on est très très, c'est aussi un cadeau que je fais à mes élèves et pour lui parce que c'est son première production. Et là on reçoit 5 danseurs et musiciens de très 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 haut niveau. On va en entendre parler parce que je pense qu'après ils vont jouer un petit peu partout. Voilà, donc on a ces deux spectacles, donc spectacle adulte et spectacle enfant. On a joué à Luxe aussi le 23, donc J'ai trois amours, parce qu'on produit aussi des spectacles de claquettes. Et voilà, après...
Ça a lieu quand exactement, là, ce
alors,
spectacle dont tu parles? On parle de festival,
voilà.
Mais les dates, c'est...
Alors le 3, donc samedi prochain, le 3 à 20h au Train Théâtre. Ça, c'est le spectacle adulte. Donc, il n'y aura pas que des claquettes. Il y a vraiment toutes les activités qu'il y a à l'école. En deuxième partie, il y a Sabor is Rhythm. Moi, je vous conseille de venir, c'est un truc de malade mental. Avec des musiciens, avec chanteurs, avec danseurs. Et le dimanche à 17h, toujours au Train Théâtre, on a le spectacle des enfants. Donc là, on a tous les enfants sur scène de Danse Avenue. Et là, on fête aussi les 10 ans.
D'accord. Et du coup, en fait, dans sa venue, c'est plus qu'une simple école. Un lieu de rencontre, un lieu aussi où, si on vient, on peut peut-être devenir professionnel de claquettes.
Exactement, exactement. On peut devenir alors professionnel, oui. Surtout, on organise des voyages. Moi, je fais venir des très grands professeurs de l'étranger. Donc, on a un très gros réseau. Et c'est vrai que j'emmène mes élèves, d'ailleurs, à New York en avril l'année prochaine. Tous les deux ans, je les emmène et on fait un super voyage. On va à Londres, on va à Paris, on va à Cuba. Et c'est vrai que moi, c'est pas que je ne fais pas juste donner mes cours et je rentre chez moi. Moi, ce que j'aime, c'est le partage. Et c'est de montrer aux autres qu'il n'y a pas que moi qui existe. On est nombreux artistes et j'invite un maximum d'artistes à l'école.
Une question un peu plus personnelle, sans rentrer dans l'intime non plus. Qu'est-ce qui te motive, toi, à continuer après 10 ans ?
Alors, qu'est-ce qui me motive ? Oui, c'est toujours une question que je me pose chaque année. Bah, déjà, ce sont mes élèves, parce que moi, même si je donne beaucoup dans mes cours, ils me donnent beaucoup. Donc, c'est aussi cet échange. C'est de faire découvrir et de se dire que l'art, c'est tellement essentiel. c'est tellement, moi, ce qui est dans mon sang tous les jours, d'être avec des artistes et de dire aux gens que l'art, en fait, est accessible à tout le monde. Qu'on soit enfant, mais même d'ailleurs, il faut démarrer jeune aussi, mais on peut démarrer, moi je disais, qui ont 60 ans, 70 ans, qui ont toujours rêvé de faire des claquettes, qui sont passionnés par la comédie musicale, la musique, la danse, enfin, tout ce qui concerne l'artistique. Pour moi, ça devrait être tous les matins au petit-déj. C'est comme les légumes, les fruits et légumes, c'est 5 fois par jour. Voilà, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est aussi de partager cette passion que j'ai et de voir que ça rend heureux les gens.
Alors, on va rappeler où ça se situe, hein, dans sa venue. Dans sa venue, c'est rue...
Thiers, 64 rue Thiers, à Valence.
Au Grand Charan.
Exactement.
À Valence. J'imagine qu'il y a toujours besoin de bénévoles aussi. Comment on fait pour te contacter ?
Oui. Après, ce qu'il faut, c'est venir à l'école. Alors, on a un super site internet depuis quelques semaines qui est magnifique, qui s'appelle dansavenue.com. Donc, vous pouvez aller sur ce site. Vraiment, il y a tous les stages, les spectacles. Tout ce qu'on fait à l'école est là. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut venir essayer, il faut venir nous rencontrer. Et après, si ça vous plaît, bah vous restez. Et c'est comme toute association, on peut faire peu, mais ça nous aide beaucoup. Et si on fait beaucoup, bah c'est top.
Juste une petite précision, le festival qui va avoir lieu le 3 juin, c'est uniquement autour de la claquette ou c'est tout type de danse ?
Non, vraiment les claquettes, bah, c'est notre spécialité, c'est ce qui fait qu'on sort un peu de l'ordinaire, parce que c'est quelque chose qui est très peu diffusé et qui marche bien et qui plaît énormément à tout le public. Après non, il y a du jazz, il y a de la salsa, il y a du flamenco, il y a du théâtre, il y a du chant. Et vraiment là, ce sont les adultes de Danse Avenue qui s'expriment sur scène.
C'était donc Stéphanie Roche sur les ondes de Radio BLV. Un grand merci d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle, directrice de l'école association Danse Avenue. Et puis qui fait
surtout le site internet. Allez-y, vraiment, il y a toutes les informations. N'hésitez pas à nous laisser vous inscrire sur la newsletter et on vous donnera toute l'année les informations.
Et
est-ce qu'il y a une journée porte ouverte qui est organisée dans l'année pour qu'on
Non, nous, c'est ouvert toute l'année. En fait, les gens mettent un pied dans l'école, c'est gratuit, c'est un essai et c'est toute l'année.
En tout cas, bon anniversaire.
Merci.
Stéphanie.
On va souffler plein de bougies.
À bientôt. Merci. Ainsi se termine cette locale. Alors, on ne l'a pas dit dans les infos, hein, parce qu'il y a un spectacle qui a lieu samedi, qui est hyper intéressant, qui est au Parc départemental de Lorient. C'est une balade spectacle écrite par Gwendoline Soublin et mise en scène en marionnette par Émilie Flachet, hein, la même qui a fait récemment, on avait fait une petite interview là-dessus sur Notre Vallée. C'est gratuit, ça dure 1h15, ça se passe samedi dimanche à partir de 17h30 avec des départs toutes les 45 minutes. Je crois que ça va être un spectacle assez féerique, fait de marionnettes avec des troupes amateurs, aussi sa troupe de professionnels qui va un peu sur les traces des animaux, des animaux disparus du parc de Lorient. Ça va être un truc assez exceptionnel. On l'a pas dit dans les infos, mais parce qu'on aime beaucoup Émilie, on le dit maintenant. C'est donc comme ça que se finit cette locale. Restez à l'écoute de Radio BLV et au programme.
Alors, à 13h, on aura Innovation, Musilac, Rodif.
13h45, minutes Papillon.
À 17h, la radio dans le pédalo, la Rodif.
À 18h, la Rodif de cette locale.
À 19h, la playlist du Zodiac, Taureau.
À 20h30, le fameux direct de l'oreille électrique.
Et tout au long de la journée, notre célèbre film musical maison unique au monde.
Et si vous aussi, vous avez des infos, vous avez envie de témoigner à la radio, quelqu'un projet à montrer, eh ben n'hésitez pas à écrivez-nous à agenda@radioblv.com. Et si vous aimez cette émission, eh ben vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et évidemment, retrouvez toutes les émissions sur radio-blv.fr. Merci beaucoup, Camille, de cette co-animation très agréable.
Merci à toi.
Et merci à nos invités. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.